Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public de retour en version confinée, chacun chez soi. Mais un esprit public bien présent, en compagnie de l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, de la journaliste Christine Ockrent, du philosophe Alain Finkielkraut et de l'économiste Daniel Cohen. C'est une grande joie de vous retrouver. Je remercie tous ceux qui rendent possible cette émission ce matin. Et je salue mon camarade Emmanuel Laurentin de France Culture qui est en ligne avec nous et qui conclura tout à l'heure cette émission avec un nouveau module consacré à la vie des idées. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons essayer de répondre à cette soif d'analyse que nous éprouvons dans cette période singulière, perturbante, étonnante aussi. 4 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité confinée. Plus de 90 000 morts dans le monde, tout, absolument tout, dans cette période du Covid-19 donne le vertige. Cette conscience comme jamais que nous appartenons au village global, cette conscience de nos interdépendances, ces vies étranges que nous menons, reclus chez nous, nos contacts avec le monde réel réduits aux courses alimentaires, tandis que nous multiplions nos contacts virtuels, et ce chiffre fou, plus de 4 personnes sur 5 dans le monde sont affectées par la fermeture totale ou partielle de leur lieu de travail, la population active coupée en deux, les confinés et les autres, personnel de santé, filière alimentaire, pour qui le quotidien reste inchangé, le danger d'être contaminé en plus. Comme elle pourrait être abyssale à la crise économique et donc sociale à venir, ce dont se moquent bien ces animaux qui n'en reviennent pas de voir la nature reprendre ses droits, avec ces désormais célèbres canards en goguette à Paris devant la Comédie Française et ces dauphins et autres footbassants de retour dans les calanques de Marseille. À l'exception du monde animal, un monde à l'arrêt donc, pour les citoyens comme ceux qui les gouvernent, si bien résumé par le philosophe Jürgen Habermas, analysant dans les colonnes du Monde comment cette pandémie nous oblige à agir dans le savoir explicite de notre non-savoir, décrivant une action politique condamnée à l'incertitude, comme une invitation à l'humilité. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, ce qui n'empêche pas des débats sans fin, spécialement en France, sur ce que devrait faire, aurait dû faire, l'État-providence ou l'État-stratège. Alors voilà qui nous conduit à cette question vertigineuse que je vous pose ce matin. Comment faire repartir ce monde incertain, ce monde à l'arrêt? À vous d'y répondre, chers visiteurs du dimanche. Et je vous propose d'ouvrir nos échanges avec les mots de l'écrivain David Grossman, recueilli par Libération. Dans cette histoire, beaucoup perdront leurs êtres chers, beaucoup leur emploi, leur gagne-pain, leur dignité. Mais lorsque l'épidémie s'achèvera, il y en aura peut-être d'autres qui ne voudront plus revenir à leur vie antérieure.
France Culture, l'Esprit Public, Émilie Aubry.
Merci de participer à cet esprit public particulier, Alain Finkielkraut. Alors, parlons d'abord, si vous le voulez bien, de la France. Comment vivez-vous dans cette France confinée, cette vie nouvelle avec les justificatifs de déplacement, ce nouveau rapport au temps, à l'avenir et j'allais dire au mouvement?
Alors, personnellement, je le vis très bien parce que je m'aperçois avec cette crise que, en fait, j'ai toujours vécu confiné. Le confinement, c'est ma vie quotidienne. Donc pour moi, personnellement, il n'y a pas de changement majeur. Cela étant, je prends très à cœur les recommandations du gouvernement. Je me surconfine, je ne sors pas. Parce qu'à la différence d'un certain nombre d'intellectuels, je ne crois pas qu'il s'agit ici pour le gouvernement de profiter de cette occasion afin d'accroître démesurément ses pouvoirs. Il ne s'agit pas de nous surveiller, il s'agit de nous protéger. Et je suis très étonné de lire sous des plumes autorisées que, avec le confinement, la suspension des libertés publiques, le fantasme totalitaire devient réalité. nous vivrions aujourd'hui sous le règne de Big Brother. Et cette critique va encore s'aggraver si le gouvernement choisit la voie de ce qu'on appelle le traçage. Cette critique, à mes yeux, n'a pas lieu d'être, parce qu'il suffit d'ouvrir 1984 pour savoir que la finalité de Big Brother, c'est d'étouffer dans l'œuf toute pensée dissidente, hérétique. Et aujourd'hui, cette pensée dite dissidente ou hérétique se donne libre cours. Big Brother organisait 2 minutes de haine pour cimenter la communauté. Aujourd'hui, la haine se déchaîne de manière ininterrompue sur les réseaux sociaux et dans certains médias, mais elle vise le prétendu Big Brother, accusé de tous les maux, traîné dans la boue, insulté sans cesse. Et pas seulement insulté, c'est ça qui est intéressant, menacé. Menacé de poursuites judiciaires pour n'avoir pas eu assez de masques, pour avoir menti, et que sais-je encore. Donc la réalité, ce n'est pas que nous soyons sous la surveillance du pouvoir, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, est lui-même sous surveillance. Pierre Rosanvallon disait que nous sommes passés d'une démocratie de confrontation à une démocratie d'imputation. Il s'en réjouissait parce que, pour lui, le gouvernement était faible, plus la démocratie se trouvait renforcée. Mais ça, c'est une pensée pourtant post-historique, pour une époque post-historique. Je crois que c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement est entravé par toutes les menaces qui pèsent sur lui. On en vient à dire que lorsque nous sommes sortis de la crise, Édouard Philippe servira de fusible à Emmanuel Macron parce qu'il passera peut-être en justice. Je trouve ça consternant. Je trouve cela absolument déplorable. Et si vous voulez, c'est incroyable. C'est, avec cette histoire de Big Brother, on se raconte des histoires. On vit, on nous fait vivre sous la domination inhumaine de l'imaginaire, pour reprendre une expression magnifique de Pasternak. On connaît le mensonge, si vous voulez. Le mensonge est aussi vieux que le monde, et ses raisons sont faciles à démêler. Mais ce que je constate, c'est l'aptitude, la propension extraordinaire, collective et individuelle, à se mentir. Et de cette propension, le thème de Big Brother est une des preuves contemporaines.
Vous aussi, Aurélie Filippetti, vous voyez à l'œuvre en ce moment cette domination inhumaine de l'imaginaire, cette démocratie d'imputation, cette surveillance du pouvoir.
Moi, je pense d'abord que, effectivement, on se réfugie en ce moment dans l'imaginaire pour échapper aux limites que nous impose ce confinement. L'imaginaire, c'est en ce moment cette réflexion sur le monde d'après. Et ce mythe qui s'installe d'un monde d'après. Pourquoi je parle de mythe ? Parce que, peut-être malheureusement d'ailleurs, le monde d'après n'existe pas. Les règles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui s'appliqueront demain si nous n'agissons pas pour en modifier au moins certaines. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'avons qu'un seul monde à notre disposition, c'est le monde d'ici et maintenant, et c'est celui qui a produit justement cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, l'imaginaire, c'est un risque parce que c'est une évasion, mais en même temps, la réflexion, elle est nécessaire, elle est indispensable. Et ce n'est pas parce que nous sommes en crise que nous devons arrêter de penser et de nous interroger sur les raisons qui ont fait que peut-être on n'a pas les réponses aujourd'hui suffisantes pour faire face d'une manière correcte et digne à cette crise terrible. Donc, pour moi, ça m'amène à évidemment une évaluation des politiques qui ont été à l'œuvre, non pas dans une démarche politicienne pour critiquer ce gouvernement aujourd'hui, mais au fond parce qu'il y a eu une constante au cours des 10, 15, 20 dernières années, c'est un affaiblissement, pas seulement de l'État, mais au fond de la notion de service public et de l'importance de l'intervention de la puissance publique dans nos vies. Quand je dis pas seulement de l'État, c'est que je pense que se réfugier, là encore, derrière l'État, est au fond une réponse un peu courte. On le voit aujourd'hui, c'est pas simplement l'État, au fond, qui peut nous aider, nous protéger face à cette épidémie. Ce sont l'ensemble du corps civil, la société civile. C'est la mobilisation de tous les soignants, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises, dans les commerces alimentaires notamment. Ou les éboueurs qui travaillent au nettoyage des rues, ce sont les collectivités locales, les communes en particulier et les régions. Et donc, en fait, j'ai l'impression que la France se retrouve un peu prise au piège de son propre jacobinisme, qui, encore une fois, a été une constante au cours des dernières années. Ce jacobinisme est aussi cette conception du pouvoir extrêmement centralisée sous la Ve République qui fait qu'on a l'impression qu'un homme seul peut prendre les décisions pour l'ensemble de la collectivité et que cet homme seul est une réponse plus efficace que par exemple un régime parlementaire avec davantage de contrôle ou de pouvoir du Parlement. Et on le voit aujourd'hui et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la France ne fonctionne pas mieux et c'est une litote que par exemple l'Allemagne qui est un régime parlementaire. Donc au fond, on doit aussi utiliser ce moment particulier, très difficile que nous vivons, pour réfléchir aux limites de notre propre modèle aujourd'hui. C'est valable pour la France, mais c'est valable évidemment et en premier lieu pour l'Union européenne, dont je pense qu'elle va se relever extrêmement difficilement de cette crise. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les valeurs qui avaient fondé la création de l'Union européenne, c'est-à-dire cet espoir d'une paix durable, mais aussi de la défense d'un certain nombre de principes, la justice sociale, la protection sociale, un idéal démocratique et un idéal de solidarité entre les pays européens et entre les peuples. C'est cet idéal-là qui a sérieusement pâti de cette crise du Covid-19. Donc, il faudra à l'avenir repenser évidemment le fonctionnement européen pour qu'il soit plus en accord avec les principes mêmes qui avaient présidé à la fondation de l'Union européenne. Et pour moi, le principal ennemi de tout ça, c'est finalement cette gestion, cette gouvernance par les nombres, pour reprendre l'expression d'Alain Supiot, qui a dirigé nos politiques en Europe et en France depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire des économies de très court terme et, on le voit, des gâchis humain de long terme sur les services publics, sur la santé en premier lieu.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Alors avant de reparler en effet de l'avenir, de cette aventure, de cette idée, de cette Union européenne, j'aimerais, Daniel Cohen, qu'on parle avec vous de ce grand retour de l'État-providence auquel nous assistons, dans le discours en tout cas, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République, les annonces multiples ces derniers jours de plans d'aide, les spots rassurants de Pôle emploi à la radio sur le thème « l'État s'occupe de tout, nous sommes là », les reports de taxes, les personnels hospitaliers hissés au rang de héros nationaux. Tout cela, selon vous, nous indique quoi sur la France d'après et la politique d'après, sachant que la France, on le sait, vient de rentrer en récession et connaissait déjà, avant la crise, un endettement de l'ordre de 100% de son PIB?
Alors on est dans une situation très particulière, puisque en fait, d'habitude, quand il y a une crise, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que le PIB ne baisse pas, que ça reparte, qu'on fasse des mesures de soutien à l'offre ou à la demande, selon la nature de la crise, ou si c'est une crise financière, de soutien aux banques et aux intermédiaires financiers. Ici, C'est un point que les économistes ont noté très tôt. On est exactement à l'inverse. Il faut que le PIB baisse. Il faut que les mesures de confinement produisent leurs effets et donc que toutes sortes de personnes soient empêchées de consommer et de travailler. Donc ça nous fait sortir entièrement du cadre des réflexions habituelles qu'on a sur les politiques économiques en temps de crise. Et de fait, en effet, il faut que l'État accompagne cette baisse, entre guillemets, volontaire du PIB, en tout cas celle qui est dictée par les considérations sanitaires du moment, et donc que l'État, oui, soutienne budgétairement toutes les personnes qui se retrouvent, du fait des politiques sanitaires publiques et du bon sens d'une certaine manière, en incapacité de travailler. Donc ça, c'est le point de départ qui fait que cette crise ne ressemble à aucune autre de celles qu'on a connues. Elle nous fait entrer dans un territoire totalement inconnu, qu'on commence à découvrir progressivement, à savoir quel est l'impact économique d'une situation comme celle où nous nous retrouvons tous ce matin, de ne pas pouvoir se rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement que de ne pas pouvoir être en face à face avec les autres? Quelle est la part du PIB qui va être réduite du fait de cette interdiction? Voilà, ça c'était, il y a encore 3 semaines, une question à laquelle on ne pouvait pas apporter de réponse. Ça n'était pas dans nos modèles, ça n'était pas dans nos manières de réfléchir, et surtout on n'avait aucune espèce d'information passée qui nous permette d'extrapoler la situation présente. Il se trouve que maintenant, on le sait, et le résultat est à la fois passionnant et surprenant. On sait qu'interdire aux gens de se parler en face à face, dans la mesure du possible, ça fait baisser le PIB, non pas de 100%, ça fait baisser le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites, échangées sur les marchés, d'un tiers. Ne pas se parler, ça ampute le PIB d'un tiers. Un tiers, ça veut dire 30% de récession par mois. Et en rythme annuel, il faut diviser ça par 12, puisqu'il y a 12 mois, ça veut dire à peu près 3% de PIB en moins par mois de confinement. Et si ça dure 2 mois, c'est 6%. Et si ça dure 3 mois, c'est 9%. Voilà les ordres de grandeur auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun précédent, certainement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais même quand on se rapporte aux chiffres des années 30, le PIB avait baissé de 30% en cumulé entre juin 1929 et juin 1932, c'est-à-dire un rythme moyen de 10% par an. On est dedans. Donc voilà le monde bizarre qui implique pour l'État, s'il mène une politique adaptée au temps, c'est-à-dire s'il soutient toutes les personnes qui se retrouvent en impossibilité de travailler, ça veut dire théoriquement un déficit exactement du même montant que la récession. On perd 30% de production au cours de ce mois-ci. Il faudrait que le déficit de l'État, théoriquement, idéalement, soit de 30% aussi par mois, divisé par 12, ça nous donne les mêmes chiffres que la récession. Donc on est parti sur une crise extraordinaire, 3, 6, 9%, et un déficit correspondant, 3, 6, 9%, à supposer évidemment qu'il y ait une sortie de crise rapide, et si ça n'était pas le cas, alors il faudrait multiplier encore ces chiffres.
Alors il y a la réponse des États et il y aura la réponse ou non de l'Union européenne. Christine Ockrent, Aurélie Filippetti s'inquiétait tout à l'heure de l'État dans lequel allait se relever l'Union européenne après ce monde bizarre, comme le qualifiait à l'instant Daniel Cohen. Est-ce que vous voyez pour les mois à venir une logique du chacun pour soi l'emporter au niveau européen, ou au contraire une nécessité de coopération internationale qui va s'imposer, sachant qu'on a entendu parler de ce plan d'aide de 500 milliards il y a quelques jours? Est-ce que vous croyez à une mutualisation des dettes, à l'émission d'un emprunt européen?
Oui, j'y crois, et je suis frappée de voir que ce sont toujours les mêmes voix qui s'empressent d'enterrer l'Union européenne. Alors qu'évidemment, il faut d'abord rappeler que la santé n'a jamais fait partie, on peut le regretter, il faut le regretter, je le regrette, la santé n'a jamais fait partie des politiques communes, et que, comme d'habitude, les crispations nationales et parfois nationalistes évidemment, s'exerce à plein dans un cas d'affolement que Daniel vient de nous décrire en termes macroéconomiques. Donc, il y a eu ces longues négociations entre ministres des Finances. On a vu que les Néerlandais, qui, comme d'habitude, sont les plus têtus et les plus effrayés par la gabegie des pays du Sud, ont fini par comprendre que c'est véritablement le principe même de l'Union qui est en jeu. Et je crois, paradoxalement, que cette crise va prouver à quel point l'édifice est fragile et à quel point il est indispensable. Parce qu'évidemment, le retour aux frontières intra-européennes, c'est une vue de l'esprit, comme si le virus respectait les frontières. Le retour à des solutions purement nationales, c'est une vue de l'esprit. Parce qu'évidemment, pour redresser nos économies et retrouver une vigueur sur le plan international, on ne va pas le faire tout seul, quel que soit l'extraordinaire dépendance que nous ressentons en France vis-à-vis de l'État. Et je crois, paradoxalement, oui, que c'est un espèce de cauchemar commun à la planète, mais commun à ces quelques 580 millions d'Européens qui se rendent compte finalement que les solutions sont à peu près les mêmes, si on excepte la Suède, et que finalement les morts surtout sont les mêmes. Et il me semble que c'est une secousse absolument mortifère, mais qui peut être très utile.
Alain Finkielkraut, peut-être souhaitez-vous réagir à ce que disait à l'instant Christine Ockrent. Au fond, dans ce monde bizarre, pensez-vous que l'on va voir revenir les nations ou qu'à l'inverse, nous sommes en train de faire l'expérience comme jamais de notre appartenance au village global et donc de nos interdépendances ?
Alors, je crois que les deux ne sont pas incompatibles, si vous voulez. Je pense que l'État national a un rôle à jouer. La mondialisation a eu quelque chose de trompeur. On croyait, c'était l'expression utilisée en Amérique, la mondialisation permettait de ouvrir, comme avec un ouvre-boîte, les marchés encore fermés. To pry open markets. Or, que s'est-il passé, notamment pour les États-Unis? Le transfert en Chine des capacités productives a été tel que les Américains se sont infligés une blessure profonde dont ils ne savent comment sortir, un déséquilibre extérieur menaçant, une dette souveraine détenue largement par les Chinois, un déséquilibre intérieur démoralisant. Je cite ici Pierre Manant dans une conférence qu'il avait prononcée à Politique Autrement sur la crise du libéralisme. Et la concurrence libre et non faussée était la ruse de la domination occidentale. Elle est devenue la justification de notre éviscération industrielle et de notre mutilation morale. La ressource de notre force, dit encore Pierre Manant, est devenue la maxime de notre faiblesse. Et ça, c'était vrai pour tout le monde. La Chine est devenue l'atelier du monde et nous avons un besoin urgent de rapatrier un certain nombre d'industries absolument nécessaire à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à l'intérieur des nations. Voilà ce que devrait être une prise de conscience née de cette crise. Mais là où je rejoins Christine Ockrent, c'est dans l'idée que certains voudraient voir dans cette catastrophe sanitaire la preuve de la validité de leur système. Ils nous disent, voilà, c'est, la souveraineté des nations a été bafouée, il n'y aurait pas eu de coronavirus sans la mondialisation, donc il faut mettre fin à toute forme de coopération européenne ou internationale. Cette crise, évidemment, nous montre le contraire. La solidarité européenne est absolument nécessaire et nous avons besoin aussi d'une coopération à échelle mondiale pour trouver le plus vite possible un traitement ou un vaccin contre cette maladie. Nous ne pouvons pas, nous autres Français, compter exclusivement sur les efforts d'un professeur de Marseille, le professeur Raoult, qui s'acharne à ne pas faire de véritables essais cliniques, alors que ceux-ci ont été introduits dans les années 20, précisément pour exclure le charlatanisme du champ de la médecine moderne et pour protéger médecins et patients de l'influence commerciale de l'industrie pharmaceutique naissante. C'est une sociologue, Amélie Petit, qui le dit dans un article d'AOC. Il souhaitait en effet que les fabricants de nouveaux médicaments apportent la preuve de l'innocuité et de l'efficacité de leurs produits avant d'être autorisés à les vendre. Voilà. Et or, nous le voyons, le professeur Raoult choisit des échantillons pas très représentatifs, des gens dont le moyenne d'âge est de 43 ans, refuse le groupe témoin, ce qui fait qu'on ne peut pas généraliser ces études et qu'en plus, on est en droit de penser qu'un certain nombre, quand même la majorité des gens qu'il a soumis au traitement à l'hydroxychloroquine, aurait guéri sans ce traitement, puisqu'encore une fois, 98% des gens guérissent. Alors, je fais une référence à ce docteur Raoult, parce que la France offre aujourd'hui le spectacle d'une régression dans la superstition. On a trouvé la panacée, c'est merveilleux, le remède miracle, au pays des Lumières, c'est tout à fait affligeant, c'est tout à fait consternant. J'espère que ces tests seront couronnés de succès. La Suède refuse de suivre. Et en tout cas, les revues anglaises les plus sérieuses sont affligées de ce qui se passe aujourd'hui en France. Je dis cela parce que nous avons effectivement, face à cette épreuve absolument terrible, besoin d'une coopération internationale. Moi, j'aime ma patrie, je suis pour un certain patriotisme économique, j'espère à travers cette crise assister à une renaissance du civisme, je crois à l'existence d'une civilisation française, je sais qu'elle est menacée de l'intérieur par la décivilisation, mais aussi par un choc de civilisation que beaucoup ne veulent pas voir. Pour autant, je ne crois pas qu'un enfermement à l'intérieur de nos frontières soit aujourd'hui la leçon à tirer de cette crise. Ce n'est pas la leçon scientifique et ce n'est pas, je crois non plus, la leçon politique.
Merci Alain Finkielkraut. Aurélie Filippetti, nous vivons dans un pays où les intellectuels, certains intellectuels, adorent débattre de deux concepts clés, la mondialisation et ce qu'on appelle la décroissance. Est-ce que dans les semaines que nous allons vivre, il n'y aura pas de fait une remise en question de la mondialisation, avec en effet cette nécessité dont parlait Alain de relocaliser certaines de nos productions, de nos industries? Et par ailleurs, nous allons la vivre de facto, cette décroissance. Nous la vivons déjà ?
Oui, nous la vivons, puisque, comme Daniel Cohen l'a bien expliqué, nous sommes actuellement entrés en récession. Et donc, la baisse de notre PIB va induire une forme de décroissance. La question de la mondialisation et la question de la décroissance, ou en tout cas d'un mode de développement plus soutenable, non pas pour la planète, mais en fait pour nous, pour l'humanité. Elles sont évidemment liées. Mondialisation, alors je dirais peut-être en reprenant une distinction qui a été faite, la mondialisation c'est quelque chose de positif, au sens où par exemple la mondialisation c'est l'échange des savoirs scientifiques, des méthodes scientifiques, c'est tout ce formidable réseau de chercheurs, de médecins qui travaillent en ce moment pour trouver des remèdes et des vaccins face au Covid-19. Mais il y a de l'autre côté la globalisation économique ultralibérale qui nous a amené dans une situation absolument absurde, c'est-à-dire où nous nous sommes privés, nous Français, nous Européens, au nom de traités de libre-échange éminemment contestables, puisqu'ils étaient au fond extrêmement nocifs pour notre économie, pour l'emploi en France, mais aussi nous amener à nous priver de nos capacités de production les plus vitales, par exemple les masques, par exemple les blouses pour les personnels médicaux, nos capacités aussi à produire des tests sur le Covid-19 en grand nombre. Donc nous nous sommes totalement dépouillés de ces capacités stratégiques. Ça a été une politique, ou plutôt une absence de politique industrielle dont nous payons très chèrement le prix. Et elle n'est pas tombée de nulle part, elle était le fruit d'une idéologie, celle de cette France sans usine dont quelqu'un nous avait vanté les mérites il y a maintenant 20 ans. Ben on voit ce que ça donne aujourd'hui. La France était le premier pays pour la qualité de son système médical il y a 20 ans et aujourd'hui nous sommes en nombre de lits d'hôpitaux par exemple, nous sommes 10e ou 11e, très loin derrière le Japon ou l'Allemagne. Donc ça c'est les conséquences de choix politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour concilier les nécessités de l'urgence écologique et ce qui se passe, c'est finalement relocaliser une partie de ces activités industrielles sur notre territoire national et européen et organiser au fond une forme de nouvelle souveraineté économique. La souveraineté n'est pas un gros mot, c'est cette capacité simplement à agir sur notre propre destin. Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, on en est réduit à des expédients pour trouver des masques ou pour trouver des blouses, pour ce qui est une urgence vitale pour nos personnels médicaux. Donc il faut reprendre cette capacité à être maître de notre propre destin. Et ce faisant, on aura aussi, évidemment, cet encouragement à ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire des circuits qui sont beaucoup moins consommateurs de carbone pour la planète. Il n'y a pas besoin c'est très mauvais pour notre industrie, mais aussi pour nos agriculteurs, d'aller importer des produits alimentaires ou des produits industriels du Brésil, d'Asie. Ça consomme beaucoup d'énergie et en plus, ça tue nos emplois nationaux ou européens. Donc pour ça, il faut sortir de cette idéologie des traités de libre-échange qui a fait beaucoup de mal à la planète et qui est en train de faire beaucoup de mal à nos économies et à nos systèmes nationaux. C'est absurde de se mettre ainsi en concurrence les uns avec les autres puisque cette concurrence n'aura jamais de fin et n'est pas en quelque sorte ne se fait pas dans des conditions qui soient équitables pour tout le monde.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Avant de vous donner la parole, Daniel Cohen, Christine Ockrent, d'un mot, Aurélie Filippetti comparait la situation en France et en Allemagne, qui en effet interroge, étonne beaucoup. Comment vous expliquez cette différence avec laquelle l'Allemagne vit l'épidémie, et notamment, en effet, on l'a dit, dans sa capacité à avoir obtenu, par exemple, des tests, à pouvoir recourir massivement aux tests. Comment expliquez-vous cette différence-là dans la structuration économique, étatique, industrielle de ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui ?
Il y a au moins deux différences majeures. D'abord, l'Allemagne a une économie qui s'est à la fois diversifiée, mais surtout concentrée sur des créneaux de production à l'exportation, surtout vis-à-vis de la Chine, qui se sont avérés extrêmement utiles et extrêmement efficaces, avec un tissu d'entreprises de taille moyenne qui sont capables d'une souplesse, d'une réactivité, notamment en ce qui concerne les fabrications de masques. Juste une parenthèse vis-à-vis de ce que vient de dire Aurélie. Je veux dire, l'idée que notre pays pourrait redémarrer avec uniquement des industries fabriquant des masques, je crois que c'est quand même une vue de l'esprit. Mais pour en revenir à l'Allemagne...
J'ai jamais dit ça.
La manière... Non, c'est juste pour essayer d'amener un tout petit peu d'échange dans cette discussion à distance. Ce qui est intéressant quand on voit dans le détail la manière dont des entreprises de taille moyenne réagissent tout de suite aux demandes d'entreprises plus grosses, par exemple celles qui fabriquent des respirateurs, on voit qu'il y a dans le tissu économique allemand ce qui nous manque. c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne qui répondent à des entreprises plus grandes. Autrement dit, il y a une chaîne beaucoup plus efficace en Allemagne. Et puis, Émilie, à mon sens, il y a une autre dimension à laquelle on a fait allusion au début de l'émission, et là je rejoins tout à fait ce que disait Aurélie Filippetti. Nous avons en France ces traditions jacobines d'un État centralisé. L'Allemagne est un État fédéral où l'on voit qu'en matière de santé publique en particulier, chaque Länder prend des dispositions et s'équipe à la mesure de ses budgets pour faire face à des imprévus. Et l'on voit que la conjugaison entre un tissu industriel beaucoup plus efficace que le nôtre et un système politique beaucoup plus décentralisé est parvenu, et je simplifie bien sûr, mais ce système-là est parvenu à un niveau de contrainte plus léger par rapport aux citoyens allemands et en même temps plus efficace. Et si je peux me permettre une boutade, je sais bien que, comment dire, c'est pas l'esprit ces jours-ci, mais peut-être n'avons-nous pas assez de protestants. On voit que dans un pays où les protestants sont quand même nombreux, il y a par rapport à cette situation une attitude qui me semble culturellement assez différente. Je insiste lourdement, c'est une boutade.
Merci Christine pour ce trait d'humour très ukrainien. Daniel Cohen, parlons avec vous maintenant plus précisément justement de ce que ce virus fait au rapport de force, au rapport de puissance, et pas seulement entre la France et l'Allemagne. Par exemple, peut-on dire avec certitude qu'aujourd'hui les ambitions de puissance de la Chine de Xi Jinping sont affectées par le virus? Est-ce qu'on peut dire que l'Amérique de Donald Trump est à l'évidence mise à nu par ce virus?
Oui, il y a des choses de cette nature qui sont en train de se produire, en tout cas certainement dans le cas de Donald Trump. Mais pour reprendre peut-être la discussion justement à ce point-ci de la question des rapports de force sur l'échelle internationale et de la mondialisation, on en a parlé beaucoup à l'instant. Il est indiscutable que cette crise va marquer un point d'arrêt à ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années, peut-être depuis la mort de Mao, c'est-à-dire la tentation du capitalisme à se globaliser, à aller pousser toujours plus loin sa chaîne de valeur, de façon à réduire toujours davantage ses coûts. Et la Chine a été le récipiendaire de cette stratégie low cost, tous azimuts, qui consiste à faire produire même des tout petits segments de la chaîne de production très loin de nos bases. Au fond, dès l'année dernière, avec la guerre commerciale de Trump contre Xi Jinping, on voyait bien que cette logique de l'ouverture tous azimuts était en train de battre de l'aile, et la Chine elle-même a compris qu'elle ne pouvait plus dépendre des États-Unis dans un certain nombre de domaines, tout comme aujourd'hui, par rapport à d'autres questions, le paracétamol et autres, nous découvrons que nous ne pouvons pas continuer de dépendre de la Chine. Donc oui, cette dynamique de mondialisation est sans doute en train de reculer, d'engager un recul, en tout cas certainement un plateau, et que l'expansion qu'elle a connue depuis 30, 40 ans est en train de se terminer. Alors, on dit parfois, bah donc voilà, le capitalisme est en train lui-même de régresser, et je crois que les discussions qu'on a eues avant montrent que c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que le capitalisme est en train sans doute d'abandonner ses terres de mondialisation et en train d'occuper quelque chose de tout à fait différent qui sera, je crois, certainement la marque au moins des 40 prochaines années, à savoir ce capitalisme numérique, ce capitalisme de la digitalisation, ce capitalisme de la dématérialisation. Alain Finkielkraut avait commencé avec des références à Big Brothers. Alors, en effet, ça n'est pas les États aujourd'hui qui sont les Big Brothers en train de chercher à étouffer les contestations. En réalité, ce sont les GAFA qui sont les Big Brothers, non pas pour étouffer nos contestations, mais en effet pour permettre de les exprimer autant qu'il sera possible pour pouvoir customiser, comme on dit, c'est-à-dire de répondre à la demande le plus loin possible, si c'est possible, du consommateur lui-même, à distance et de manière numérique, à ses besoins. Et nous sommes tous en train de faire l'expérience de toutes ces technologies qui vont permettre de soigner à distance, de se rencontrer à distance. Ça, c'est la marque de ce nouveau capitalisme numérique qui, grâce à cette crise, de manière la plus paradoxale et évidemment la plus cruelle possible, est en train de repartir, de se créer une espèce d'immense terrain d'expérimentation qui va nous amener très très loin de nos terres habituelles. Alors, dans ce nouveau capitalisme numérique, qui va l'emporter, de la Chine et des États-Unis? Et on voit que quand même, en creux, il y a une différence de modèle, c'est-à-dire on a la Chine qui n'a aucune réticence à mener le plus loin possible cette numérisation de la société, qui veut dire en réalité, même si c'est au départ à des fins commerciales, tous avoir des gens, ceux qui veulent voir à la télé sur leur tablette, y compris leur état de santé bientôt, et puis nos sociétés occidentales qui mettent, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, naturellement des considérations très importantes avant cette efficacité économique et numérique, c'est-à-dire le respect de la personne, de leur intimité, des données en tout cas, qui essayent de le faire. Et donc, oui, pour reprendre, Émilie, votre question, c'est peut-être aussi le point de départ d'une concurrence de modèles. On va dire que le modèle américain a écrasé le monde au XXe siècle à partir de deux innovations très simples, la télévision et l'automobile. La planète s'est repensée à partir de ça. On reste chez soi, on voit la télé, et puis grâce à l'automobile, on peut avoir une espèce de société périurbaine. Le XXIe siècle sera tout à fait autre chose. Quelles seront les toiles du numérique? Jusqu'où nous prendront-elles? Jusqu'où nous dispenseront-elles de nous rencontrer? Quelle va être l'emprise de cette matrix sur nos vies? Ça, c'est quelque chose pour le XXIe siècle, avec, oui, peut-être, la concurrence de deux modèles. C'est ça à quoi il faut aussi, en Europe, être très attentif pour ne pas avoir à choisir entre l'un et l'autre.
Christine, vous vouliez réagir peut-être à ce que vient de dire Daniel Cohen sur ce que Thomas Gomard appelle cette bataille des récits qui s'engage déjà entre notamment l'Orient et l'Occident, l'Asie et l'Occident, dans cette affaire de Covid.
Oui, surtout, comme vient de le dire Daniel, entre Xi Jinping et Donald Trump, qui lui joue au grand sorcier blanc en se préoccupant de son audimat tous les soirs quand il parle de la pandémie. Moi, ce qui me frappe, c'est l'éclipse de la Russie, ou plus précisément de Vladimir Poutine, qui, souvenez-vous, dans un entretien retentissant au Financial Times il y a quelques mois, nous expliquait que notre modèle à nous, des démocraties libérales, était mort, et que, bien évidemment, c'était le sien qui prévalait. Vladimir Poutine, on ne le voit plus, on ne l'entend plus, et même par rapport à son système de pouvoir qu'il s'est empressé de prolonger ad vitam aeternam, on voit que bizarrement, pour la première fois, il délègue les mesures forcément impopulaires aux gouverneurs des provinces russes. Mais on voit surtout que la Russie est totalement effacée de ce duel épouvantable entre la Chine et les États-Unis, avec effectivement d'un côté Xi Jinping affirmant la prééminence et la victoire quasi immédiate d'un modèle chinois et l'effacement du modèle américain. Dans ce duel-là, la Russie est absente, alors que, encore une fois, l'ambition de Vladimir Poutine était d'établir une sorte de triumvirat.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
J'aimerais qu'on termine avec cette phrase qui revient sans cesse. Après le Covid, plus rien ne sera ou ne serait comme avant, à moins que ce soit peut-être l'académicien Dany Laferrière qui n'ait raison quand il écrivait il y a quelques jours. On va répéter que l'humanité n'avait pas subi une telle catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dès que l'État dira « c'est ouvert », tout repartira comme avant. Est-ce que c'est ainsi que vous voyez l'avenir, Alain Finkielkraut ?
Écoutez, j'ai entendu les propos de Daniel Cohen, absolument passionnants, et je me demande, à le suivre, si, après la crise, ce ne sera pas pire qu'avant. Parce que Daniel Cohen nous décrit l'emprise grandissante du numérique sur nos vies. Et pendant la crise, le virtuel a fait la loi. On a enseigné à distance, il y a eu des enterrements à distance, des enterrements par Skype. Des gens qui n'étaient pas habitués au virtuel, au digital, ont dû rattraper, comme on dit, le retard. Le problème d'avant, c'était déjà l'oubli des choses, ou pour parler comme le plus grand philosophe du XXe siècle, l'oubli de l'être. Voilà. On se réfugiait dans l'abstraction, on vivait dans les non-choses, et je pense que tout risque encore de s'aggraver après cette crise, alors que nous avons impérativement besoin d'un retour à une existence un peu plus ancrée, un peu plus charnelle, et d'une attention aux choses, d'une attention à l'être. Parce que l'un des bienfaits paradoxaux de cette interruption de la vie économique, de cette pause dans l'affairement, c'était quoi ? C'était, eh bien, vous l'avez dit, les canards à la Comédie Française.
Devant la Comédie.
À la Comédie Française, pardon, l'Académie, j'en rêvais. Non, il n'y aura pas de canards à l'Académie Française. À la Comédie Française, c'était des dauphins dans les canards. C'était aussi à New Delhi. Le bruit qui a été chassé. New Delhi était un cloaque sonore et New Delhi découvre les vertus du silence, redécouvre un coin de ciel bleu, la terre s'est refait une beauté, à Venise la mer est redevenue bleue et j'aimerais que nous n'oublions pas, quand les affaires reprendront, ce moment de douceur, que nous soyons capable d'en tirer toutes les leçons, mais pour cela, il faudrait précisément que nous déconnections un peu pour nous reconnecter à l'être et aux choses mêmes.
Daniel Cohen, votre commentaire.
Mais je crois que le monde d'après va beaucoup dépendre du monde de l'immédiatement après. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a pensé que cette crise durerait le temps de cette grippe saisonnière, comme on pensait qu'elle serait au départ. C'est-à-dire, on est confiné et en effet, en mai, en juin, on se retrouve, on est heureux. Et peut-être que c'est tout à fait autre chose qui se dessine. On voit qu'il va falloir recommencer à travailler alors même que la crise n'est pas terminée. Il va donc falloir travailler dans la hantise de cette pandémie qui continuera de rôder. Et il y aura certainement dans cette période de transition des choses très très désagréables. Alors sur le terrain économique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rebond. Il n'y aura pas cet enthousiasme de retourner dans les cafés, dans les salles de cinéma et dans les théâtres. On restera entre deux mondes. On restera un peu confiné dans cet espace qui nous aura été aménagé par les technologies numériques dont on a parlé. Et on ira travailler dans la méfiance du rapport à autrui. Et ça, c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment exactement ce qui va polluer cette crise, qui va nous empêcher d'en faire un moment d'ivresse quand elle se serait terminée. Et c'est surtout ça qui me préoccupe. Il faudra être très attentif dans cette période intermédiaire, dans cette drôle de guerre, mais de sortie de guerre, entre guillemets, en utilisant cette métaphore qui, en réalité, n'est pas du tout adaptée à la situation, mais qui peut traduire un état d'esprit qui serait tout à fait mauvais. Donc, j'espère surtout qu'on va pouvoir sortir rapidement, presque chirurgicalement, de cette période. Et si ça n'était pas le cas, il faudra être vraiment très attentif à restaurer très vite cette envie d'être ensemble, alors même que la crise sanitaire ne sera pas terminée.
Christine O'Krent.
Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Daniel, mais je crois qu'il faut aussi commencer à réfléchir au retour du travail. Il ne faudrait pas que cette étrange ambiance où en fait il y a une espèce de pour ceux qui ont la chance d'être en bonne santé, une espèce d'anesthésie molle, où on s'installe dans une sorte d'inconfort confortable, en tout cas pour ceux d'entre nous qui ne sont pas dans l'exiguïté de 22 mètres carrés à 3. Et il me semble que le défi va être, dans les jours, dans les semaines qui viennent, de réfléchir à la manière de recommencer à travailler. Parce que, encore une fois, nous, toute société, tout système économique, nous ne pouvons pas rester à l'arrêt. Et il faut réfléchir aussi aux conséquences sociales, psychologiques et pas seulement économiques de cette espèce d'état figé où nous sommes. Et l'on va voir, à mon sens, des débats extrêmement virulents entre ceux qui vont défendre la nécessité d'accepter à nouveau une part de risque pour retourner au travail, avec évidemment toutes les précautions possibles et imaginables, et ceux, au contraire, qui vont crier à la domination exclusive des intérêts économiques. Et à mon avis, ça va être un débat très difficile.
Aurélie Filippetti, à votre tour, en guise de conclusion, comment le voyez-vous, ce monde d'après ?
Alors, je voudrais peut-être donner la parole à un poète, parce que je pense qu'on n'a plus que jamais besoin de poésie, de littérature, d'art. Et c'est Fernando Pessoa qui écrivait « De tout, il resta trois choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. »
Merci pour ces mots, Aurélie Filippetti. Et on ne va pas se quitter sans vous, cher Emmanuel Laurentin, avec d'autres mots. Vous aussi confinés, mais
bonjour.
Vous faites un travail formidable avec l'équipe du temps du débat en ce moment. Vous rassemblez des textes originaux d'intellectuels du monde entier sur la crise en cours. Ça s'appelle « La conversation mondiale ». Et vous allez nous en livrer un aperçu en guise de conclusion de cette émission.
Exactement, j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit par vos intervenants aujourd'hui. Nous souhaitons, nous, à la conversation mondiale, au temps du débat, poursuivre justement une discussion qui a été entamée au tout début de cette crise, en faisant dialoguer, texte après texte, des écrivains, mais aussi des intellectuels du monde entier. Depuis trois semaines, nous avons ainsi publié sur le site de France Culture des écrivains comme l'écrivaine grecque Hercy Sotiropoulos, espagnole Laura Freixas, la japonaise Ryoko Sekiguchi ou encore la romancière Véronique Tadjo, des artistes comme Claire de la Ribeaupierre ou encore Alexander Neff, ou des philosophes comme l'américaine Nancy Fraser, mais également l'allemand Anselm Yap ou encore Vinciane Després, qui nous parle du devenir oiseau des humains après cette crise. Mais puisque l'esprit public a pour habitude de débattre des grandes questions d'actualité nationale et internationale, et vous l'avez fait aujourd'hui, eh bien, je vous présenterai deux textes qui ont été publiés cette semaine autour de la discussion qui a été lancée tout à l'heure et interrompue par Aurélie Filippetti sur le rôle de l'Europe dans cette crise. Le premier est signé de la professeure de relations internationales à Oxford, Calypso Nicolaïdis, qui regrette, pour commencer, que l'Union européenne n'ait pas bien organisé, dit-elle, la solidarité entre ses membres, mais qui précise aussi que l'Europe, et c'est ce qu'a dit Christine Ockrent, ne peut qu'organiser la diversité. En revanche, explique Calypso Nicolaïdis dans son texte, l'Europe doit changer de registre temporel et devenir, je la cite, la gardienne du long terme, en investissant massivement dans la prévention des crises à venir et dans la résilience collective, passer ainsi de la gestion de l'espace, ce qui a été fait jusqu'à maintenant selon elle, à la gestion du temps. Et ce temps, il est difficile de le rattraper, explique de son côté l'essayiste italien Giuliano D'Ampoli, auteur des Ingénieurs du chaos et ancien conseiller de Matteo Renzi dans le texte qu'il nous a confié. Donc pour cette conversation mondiale, il explique que l'Europe mène en fait une guerre avec les armes de la précédente, ferme ses frontières suivant un vieux modèle de souveraineté. Et or aujourd'hui, dit-il, est souverain celui qui dispose des données. Et nos souverains n'en disposent pas, car ils ne disposent pas de tests. Ils ne sont pas de vrais souverains, dit Giuliano Ampoli, ce qui l'autorise à critiquer l'usage des métaphores guerrières autour de Clémenceau ou d'autres grands hommes politiques des guerres précédentes. Si le coronavirus était une guerre, dit-il, force serait d'admettre que la majorité des pays européens a été envahie par un blitzkrieg auquel nos généraux étaient impréparés et divisés. Notre devoir sera donc en Europe de reconstruire après la défaite. Vous voyez, Émilie, entre le long terme dont l'Europe devait être la gardienne Selon Calypso Nicolaïdis, c'est la guerre en retard décrite par Giuliano d'Empoli. Tout est une question de temps. J'espère ne pas avoir trop pris dans cette discussion que vous avez lancée avec vos invités pour ce premier esprit public confiné. Sachez que nous allons dans les jours à venir publier Alaa El Yaswani, l'écrivain donc de l'immeuble Yacoubian, ou encore des textes venant de Russie comme celui de Vladimir Posner ou encore de Mauritanie. Et puis également, nous allons avoir peut-être une lecture spinoziste sur la crise, et dès demain, donc lundi, une spécialiste argentine des rapports de la religion catholique à l'État argentin au milieu de cette crise. C'est le programme de la conversation mondiale pour les jours à venir, mais je vous engage à aller relire les textes qui ont déjà été publiés sur le site de France Culture.
Eh bien, nous avons déjà hâte de lire la suite de cette conversation mondiale. Merci infiniment, cher Emmanuel Laurentin.
Merci
à vous quatre, Alain Finkielkraut, Christine Ockrent, Aurélie Filippetti, Daniel Cohen. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Milena Elig. À la technique, Jean-Paul Lafaverge et Déborah Dagobert. Un merci tout particulier, bien sûr, à toutes les équipes de France Culture qui ont rendu ce matin possible cette émission. Un merci particulier à Jean-Marc Clos et un énorme merci aux techniciens du fameux CDM, le Centre de Distribution des Modulations, sans lequel rien ne serait possible dans ce contexte particulier. Tout de suite, on ne change pas certaines de nos bonnes habitudes. Voici Caroline Brouet et ses bonnes choses. Il est tellement important de cultiver aussi l'art de la table en ces temps tourmentés. Alors voici, je crois, un excellent plat de lentilles. Quant à moi, je vous dis, je l'espère, à dimanche prochain. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et des vôtres. Écoutez, lisez France Culture, c'est le meilleur des remèdes.